Bonsoir à vous. Alors, je suis heureux d'être là ce soir en tant qu'ex-bordelais. J'ai fait Albi, en fait. Voilà, j'ai quitté Bordeaux il y a 2 ans. Et heureux d'être là et en présence de Jacques Abeille et de François Suiten. Voilà. Et j'aimerais placer cette rencontre, faire une citation en exergue, hein, et citer les jardins statuaires. Une phrase. Les livres aussi tombent dans l'oubli. Page 56, je crois. Pourquoi cette citation en exergue ? Mais tout simplement du fait du sort réservé au jardin pendant très longtemps. Alors, malgré le travail du matricule des anges depuis longtemps, et certains libraires, le sort des jardins statuaires a longtemps été funeste. Et grâce au concours de jeunes éditeurs, l'édition Attila, les jardins statuaires vont semblent échapper à l'oubli, ou semblent échapper, je cite, à cet irrémédiable désert de l'oubli dont il est fait mention dans Les Mers perdues. Alors, grâce au concours des éditions Attila et grâce au concours de François Suiten, dessinateur. Donc, une double question à Jacques et à François. D'une part, Jacques, comment êtes-vous rentré en contact avec les éditeurs, les éditions Attila, et François Suiten, comment êtes-vous tombé sur un exemplaire de jeune statuaire ?
Qui commence ?
Ah ben je peux commencer puisque je suis ton obligé depuis très longtemps. En fait, c'est une rencontre qui a été différée d'une bonne vingtaine d'années. Pour la bonne raison qu'un roman précédent, il y a déjà eu un éditeur, les éditions Zulma, qui avait eu la bonne idée de passer le manuscrit à François, qui avait créé la couverture. Il avait fait plus que la créer. Il était content d'avoir fait ce travail, c'est un bel hommage, et il a eu le geste amical d'offrir le droit de reproduction à l'éditeur, et ce qui n'a pas enchanté l'éditeur, et avait prié l'éditeur de me transmettre la planche originale qui était passée chez l'imprimeur. J'étais dans une période un peu fluctuante, un peu encombrée de ma vie, et je ne me suis jamais manifesté, jamais un mot de remerciement, rien du tout. La chance, c'est que François m'en ait pas voulu du tout. La deuxième étape...
Je m'en souvenais pas, en fait.
Mais c'est ça. C'est ça, la vraie gentillesse, c'est de n'avoir aucune rancune, hein, aucune mémoire. Là, au moins, on est sûr d'être gentil et de ne pas avoir de ressentiment. Et, alors, c'est une deuxième étape. De nouveau, un éditeur fait le rapprochement, dit tiens, là, il y a des affinités, et apporte une édition antérieure et déjà enterrée des jardins statuaires, apporte cette édition à François Suiten. Et là, à toi.
Voilà. Oui, c'est vrai, je me souviens très bien d'avoir fait cette illustration pour ce livre, parce qu'il m'est arrivé une chose curieuse, c'est que généralement, j'ai toujours une... À l'époque, j'avais une bombe de fixatif pour fixer les dessins un peu fragiles quand je travaillais au crayon. Et là, il se fait qu'à lieu de la bombe de fixatif, j'ai mis, par erreur, une bombe de colle. Fait que pour terminer l'image, je fixais généralement. Et là, j'ai bombé de colle l'image de la couverture de Jacques Abeille. Donc, il y a quelque chose toujours de maudit avec Jacques. Je m'étonne que les micros fonctionnent et que... Et donc, ce dessin était tout à fait collant et j'ai à peu près dû le recommencer entièrement. Enfin bon, c'était une histoire assez curieuse. Et donc, je me souvenais très très bien de ce dessin. Et puis voilà, puis alors un jour, je reçois la demande des éditions Attila d'illustrer le livre Les Jardins Statuaires. Et donc, j'étais très troublé par ce titre, que je trouvais déjà très évocateur, très beau. Et je leur demande, bien sûr, que ça pouvait m'intéresser. J'avais bien aimé ce roman il y a une vingtaine, dont j'avais fait la couverture il y a 20 ans, mais enfin, je ne pouvais pas présumer de l'adhésion que je pouvais avoir à un roman. Et là, c'était vraiment un choc incroyable, parce que quand j'ai commencé à ouvrir ce livre, j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose de frappant, de rare, surtout pour moi, parce que dans les romans, je trouve souvent un très beau travail d'écriture, mais je me sens souvent assez éloigné de mon envie d'entrer dans un monde, dans un imaginaire, et surtout la cohérence de la description de ce monde. Et ce qu'offrait le Jardin Statuaire, c'était justement cette équation extrêmement, pour moi, rare, qui était ce monde fantastique, mais décrit avec une langue, et puis surtout avec une cohérence et vertigineuse. Et donc j'ai tout de suite, avant même d'avoir de continuer dans la lecture, j'ai prévenu les éditions Etila que je serais partant pour faire cette couverture, mais surtout que j'aimerais rencontrer enfin l'auteur pour avoir l'occasion de lui dire l'admiration que je portais à son travail, mais aussi pour lui dire que j'avais énormément de dessins autour de ce thème. Parce que c'était ça qui me frappait en lisant le livre, c'était à quel point il y avait une proximité troublante. Et j'étais même un peu jaloux, d'ailleurs. Je me disais, vraiment, c'est le genre de récit que j'adorerais avoir inventé. Comment même, j'avais pas eu l'idée, même. Donc, voilà, et on s'est rencontrés à Bruxelles. Et alors là, après, c'est lui qui doit continuer.
Oui, en effet, il y a d'étranges convergences entre vos deux univers. Vous êtes vous-même l'auteur de trois cycles. Mm-hmm. Le cycle des métamorphoses, le cycle des terres creuses, le cycle des cités obscures, et Jacques Abeille, le cycle des contrées. Et donc, une même sensibilité pour le monde imaginaire, pour une géographie imaginaire, une topographie imaginaire. Vous pouvez en parler un peu plus ?
Oui, c'est ça. C'est évidemment un petit peu cette chose-là qui m'a troublé. C'était l'exploration et l'intimité dans lequel Jacques Abeille nous plonge dans son écriture, c'est-à-dire une espèce de proximité et en même temps d'étrangeté, cette espèce de chose troublante qui m'intéresse beaucoup. C'est comment, dans les choses parfois les plus simples, on trouve une dimension fantastique. En cela, d'ailleurs, on a beaucoup parlé à Bruxelles du fait qu'il a quelque chose un peu du Nord dans son imaginaire, alors que sa langue est bien inscrite dans la tradition française. Et donc, tout ça, évidemment, fait qu'il y avait... Voilà, on était comme un peu reliés souterrainement par des fils invisibles, et qu'il y a beaucoup d'émotions à découvrir ça. Il y a beaucoup d'émotions à sentir ça, ce qui a fait que tout de suite, quand il a regardé mes dessins et qu'il a dit éventuellement j'écrirais bien quelque chose, j'avais une totale confiance dans ce qu'il pouvait faire autour de ça. Parce que déjà, on était dans la même famille. On était en famille. Oui.
Le recours à l'image, Jacques, c'est pas la première fois.
Non, c'est pas la première fois. J'aime beaucoup écrire sur des images, mais celle-ci m'était particulièrement proche. Hein. Pour revenir à la rencontre de Bruxelles, il y a effectivement immédiatement, le bonheur qu'il y a dans cette rencontre, c'est de rencontrer l'homme de ces images. Hein. C'est-à-dire que tout de suite, la sensibilité est alertée et une sympathie immédiate d'homme à homme qui confirme le sentiment d'affinité pour les images de François. Ça, c'est le premier point. Et c'était si intense que... J'ai pas eu le sentiment que je m'embarquais dans dans de la création littéraire. J'ai eu envie de lui faire une plaisanterie amicale. C'est-à-dire, je me suis dit ce qui serait bien avec ce monde qui m'est si proche, ce serait d'écrire à François semaine après semaine en lui racontant la découverte de ce monde. Et là, Dans la relation d'homme à homme, j'avais déjà ma structure narrative. C'est le roman parlait était déjà là en germe, tellement je me sentais proche de ces dessins, de ces planches dessinées. C'est le premier point. Et puis alors ce dont j'ai voulu me défendre et je n'ai pas pu, c'est que c'était si proche, nos deux sensibilités sont tellement consanguines, pour ainsi dire, que ça m'a ramené dans mon cycle des contrées que je croyais avoir clos. Parce qu'il y a deux volumes et demi qui sont publiés, le troisième est quasiment sous presse, en tout cas il est bouclé, il me reste quelques pages à écrire pour avoir fini, je croyais avoir fini. Et puis là, avec Les Mers perdues, à cause du saisissement qui m'a pris en présence de ces images, je rajoute une sorte de coda, ce qui donne d'ailleurs une forme circulaire, puisque longtemps après que tout ait été raconté, l'origine lointaine de toutes les statues est résolue grâce aux images de François. Hein, oui, en gros, c'est ça.
Oui, parce qu'il y a un double mouvement. Il y a d'un côté les gens d'un statuaire, où on part d'un texte pour aboutir à une illustration, et inversement, avec Les Mers perdues, vous partez, vous, l'image, et vous écrivez un texte.
Oui. Hein? Oui. Ben, c'est, de toute façon, on me l'a reproché, d'ailleurs, et on peut. On m'a reproché, il est arrivé qu'on me fasse une observation en me disant « Le roman, c'est comme la musique, c'est un art du temps. » Et Jacques Abeille se permet de détourner le roman de sa fonction et d'en faire un art de l'espace. Bon. Oui, je suis plutôt dans l'espace, il y a quelque chose d'intemporel. Mon écriture est anachronique, elle réfère à aucune époque. Ma syntaxe, mon vocabulaire ne sont pas plus du 19e que du 21e siècle. Mes personnages ont également quelque chose d'impavide et d'immobile dans le déroulement de leur existence, à certains égards. Mais parce que j'écris, je suis déjà dans un paysage que je précise au fil des mots. Alors, la différence ici, c'est que c'est un paysage qui m'était aussi familier, simplement je n'en étais pas le créateur, et je n'avais qu'à préciser mes émotions, mais je n'avais qu'à suivre, comme si le roman était déjà là, ne demandait qu'à être écrit. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui était le fait exact de ces images. Elles m'appelaient, elles m'attendaient.
Mais les images ne vous ont-elles pas toujours appelé, puisque les jardins statuaires, à l'origine, c'est l'image d'un champ de courge, il me semble.
Oui, hein. Oui. Oui, mais là, c'est... Oui, bien sûr, mais il a fallu que ça prolifère. La différence, c'est que les jardins statuaires, le champ de courge, entre le champ de courge réel et la rédaction des jardins statuaires, il s'est écoulé plus de 10 ans d'incubation du pressentiment. Tandis que les planches de dessin de François, nous sommes vus le lundi de Pâques, c'était donc le 5 avril, sauf erreur, et les premières lignes du roman ont été tracées le 8, 3 jours après, le temps de rentrer à Bordeaux, de faire Bruxelles-Bordeaux en voiture, avec une petite étape à Chartres. Voilà, pour tout vous dire. Donc, c'était prêt, c'était mûr. Et on a d'ailleurs, grâce à l'harmonie que les éditeurs ont su créer entre nous, c'est une performance exceptionnelle, ce roman, parce que les deux complices se rencontrent le 5 avril, le 31 mai, moi j'ai bouclé le texte, on ajuste le livre pendant le mois de juin, Et en juillet, la maquette part chez l'imprimeur et c'est début août chez les libraires. Ça. Alors là, je rends hommage à tous ceux qui ne sont pas là parmi nous, hein, aux maquettistes, aux éditeurs, à l'imprimeur, parce que quand on voit la qualité matérielle de l'ouvrage, c'est quand même une performance extraordinaire, hein, rarissime, peut-être unique. Non tu...
Oui. Mais, par certains côtés, moi, j'étais très étonné, parce que c'est la première fois où on écrivait... Enfin, il a dit très joliment qu'il avait illustré mes images, ce qui était assez amusant comme formule. Mais évidemment, que ce qui m'a beaucoup troublé, c'était la façon dont il avait organisé ces images. Il s'était réapproprié ces images, qui étaient un petit peu des images sans voix, c'est-à-dire des images où il leur manquait quelque chose. Au départ, ces images étaient faites pour un jeu vidéo, en fait. J'avais travaillé plusieurs années sur un énorme jeu vidéo où j'avais construit tout le monde et la cohérence de ce monde avec les créateurs, des jeunes créateurs très, très intéressants, très, très passionnants. Et ce projet s'est arrêté net à la suite de la faillite des producteurs allemands. Et comme il y avait une très grande complexité dans le système de construction du jeu interne, il n'a pas pu être repris ailleurs. Et donc ça attendait là, comme ça, ce monde attendait là, et je voulais surtout pas le démembrer, le sacrifier, parce qu'il y avait une espèce de cohérence interne que je n'ai pas expliqué d'ailleurs à Jacques. Je trouvais que c'était pas nécessaire de commencer à lui raconter toutes les histoires qu'on s'était racontées sur ces images. Curieusement, il en a quand même saisi naturellement, bien sûr, un ensemble, parce que intuitivement, il a retrouvé des... Mais il a aussi créé, et c'est ça qui m'a passionné et beaucoup troublé, il a trouvé des choses encore beaucoup plus intéressantes que ce qu'on aurait pu faire dans le cadre d'un jeu.
Et des choses qu'il a rattachées à ce qu'on peut appeler la proto-histoire, en tout cas la jeunesse,
voilà.
Jeunesse statuaire.
Voilà, c'est ça qui était troublant. Mais c'est vrai que Jacques Abbé a une écriture qui attire l'image. C'est un aimant d'images comme ça. Et c'est vrai que pour un dessinateur, c'est extrêmement frappant de lire ça parce qu'on a envie presque à chaque page de prendre son crayon, ce qui sera une difficulté pour continuer le livre.
On pourrait faire un livre infini.
Oui, exactement. Mais voilà, c'est ça que c'est très intéressant, cette écriture-là, qui n'est pas spécifiquement française. C'est pour ça que c'est un écrivain qui se rattache comme ça un petit peu à des... J'ai eu ça aussi avec d'autres écrivains, comme Ismaël Kadaré, ou comme... Bon, même à une époque comme Kafka, Jules Verne, enfin, il y a toute une série d'écrivains comme ça où je me sens sollicité directement en tant que dessinateur.
Les écrivains qui convoquent le visuel, j'aimerais qu'on reste sur la prévalence de l'image dans l'écriture de Jacques et lire cet énoncé des mers perdues, précisément là, à la page 18 et puis ensuite page 21. Il écrit ceci: « Jusqu'à cette rencontre privilégiée, la poésie, pour moi, était un art des mots raffinés, réglé par la rhétorique qui énonçait ce qu'on pourrait appeler les lois des signes. Je découvre avec ce compagnon que les mots sont faits pour libérer notre perception et que la rhétorique n'a pas pour fin l'harmonie verbale, mais le jaillissement d'une langue incantatoire qui émane de la beauté sous-jacente des choses et d'une tension vers leur image. Mmh. » Mmh.
Mais ça vient de ce double jeu du texte où j'espère ne pas ennuyer le lecteur en me permettant à la fois de développer une sorte d'aventure, une histoire d'explorateur, mais comme j'ai comme compagnon un dessinateur qui est le double de François. En même temps, mon narrateur décrit le dessinateur et par conséquent, ça me permet d'exprimer ce que les images m'apportent. Et ce qui me touche dans le travail graphique et plastique en général, ça me permet de m'épancher pudiquement, sauf ici où je révèle le dessous des choses. Et en même temps, toujours cette idée d'offrir une surprise amicale en me disant, je prends un risque, est-ce que François, est-ce que c'est bien comme ça qu'il perçoit le dessin, est-ce qu'il va sentir que je suis très proche de ce qu'il fait, enfin, presque intime, en décrivant un dessinateur qui est pourtant un personnage imaginaire. Je ne crois pas que François ait eu quelque aventure sentimentale que ce soit avec une jeune géologue étrange. Mais par contre, effectivement, ils sont tous les deux compagnons de voyage, l'un qui écrit et l'autre qui dessine. Et celui qui écrit commente les gestes, commente la vision, et essaie d'exprimer quelle révélation il a des choses à travers leur représentation. Bon, et puis c'est en même temps un plaidoyer pour l'art de l'image, pour l'imagination en général, la faculté de faire des images, autrement que par, j'ai aucun mépris pour la photo bien sûr, mais autrement que par des procédures d'enregistrement mécanique. Voilà. C'est une des dimensions, ce qui entraîne d'ailleurs toute une révolte contre l'asservissement technicien, contre la technique délirante, au profit de l'artisanat, du fait main et du dépôt de l'image, qu'elle passe par les mots ou surtout par le graphique, par le crayon, par les crayons de couleur, etc.
Ce qui est amusant aussi, c'est que quelque part, ça recoupe la tradition des dessinateurs explorateurs. J'ai toujours aimé ça, et d'ailleurs j'en ai toute une série, je ne sais pas si tu le savais, j'ai toute une série de livres, qui sont des rééditions pour la plupart, de ces dessinateurs qui accompagnaient ces expéditions et qui dessinaient donc, les sites qu'ils découvraient. Donc il y a des très très beaux dessins des sites incas tels qu'on les... encore en plein de lianes et d'une nature exubérante. Et la rigueur de ces dessinateurs qui étaient là obligés d'avoir un travail extrêmement précis parce qu'il était analysé par des scientifiques, il avait une valeur scientifique. Et j'ai toujours été extrêmement troublé par ces dessins parce qu'ils n'étaient pas là pour être jolis, mais ils étaient là pour rendre compte. Et évidemment, c'est une vocation très intéressante et très troublante et très porteuse d'imaginaire en même temps.
Ouais, dans cet esprit-là, une de mes grandes émotions a été d'aller visiter à Paris une exposition qui était l'exposition des trésors de la bibliothèque du Sénat, où j'ai vu par exemple un manuscrit de Jean-Jacques Rousseau. On voit d'ailleurs le tempérament obsessionnel de Jean-Jacques Rousseau, cette écriture parfaitement calligraphiée, toute petite, qui remplit des pages et des pages. Mais le clou de cette exposition, pour moi, c'est la bibliothèque, le meuble bibliothèque qui a été fabriqué à la suite de cette chose invraisemblable qui était la campagne d'Égypte du général Bonaparte, où il a emmené avec lui... Ouais. Toute une équipe de savants et d'artistes, les artistes étant dirigés, réglés par un personnage tout à fait amusant et singulier qui était Vivant de Nom, qui est passé à la postérité pour un petit conte léger qui s'appelle Point de lendemain, que je recommande à tout le monde, mais qui était un homme plein d'esprit, et tous ces artistes qui ont relevé les motifs égyptiens, depuis la dimension des pyramides et les grands paysages, jusqu'à des détails qu'on savait pas encore déchiffrer, ou commençait à se douter qu'on allait découvrir quelque chose, et tout ça a constitué des livres, mais qui sont une bibliothèque scientifique. Ce sont des relevés scientifiques, y compris le travail des artistes. Et c'est une splendeur. C'est un meuble qui est fait à la dimension des livres dans lequel ils s'encastrent tous les uns par rapport aux autres. Et puis quand on ouvre ça, on a des cartes, on a des vues. C'est une merveille, une merveille absolue, un chef-d'œuvre. Et ça, c'est très, très émouvant. Et c'est effectivement... en mémoire de ou comme un naturaliste comme Audubon, qui est merveilleux, les oiseaux, enfin il y a toutes sortes de gens qui ont fait des choses absolument extraordinaires, et c'est effectivement dans cette rêverie là que je me suis installé pour écrire. C'est une sorte d'hommage à toutes ces générations de graphistes, de plasticiens, d'artistes oubliés pour la plupart, anonymes, mais quel talent.
Une rêverie non exempte d'un souci du détail. Vous partagez tous les deux un commun souci de l'architecture, de l'architectural, de la métaphore architecturale. Pour vous, François Cuitaine, votre père était architecte.
Mon frère, ma sœur, mon beau-frère.
Famille architecte. Ouais. Hein. Et pour vous, Jacques, d'où vient ce...
Ben, je ne sais pas si... moi, j'ai des... du côté paternel, j'ai des imprimeurs. et puis, quand j'étais dans l'atelier de François, j'étais assis à côté de sa bibliothèque. Et je lève les yeux et je dis... Ah, tiens, vous avez un album, là, consacré à Louis Bonnier. On se tutoyait pas encore. Alors il me répond, ah oui, quel architecte, ça j'aime beaucoup Louis Bonnier. Je dis, oui, c'est mon arrière-grand-père. C'est vrai, hein, c'est pas une blague. Donc voilà, il y a effectivement peut-être quelque chose qui est l'homme qui m'a élevé. Mon oncle était lui-même passé aux Beaux-Arts à Paris dans un atelier pour être formé d'architecte également.
Il a fait un très très beau projet, Louis Bonnier, pour une exposition universelle.
Complètement utopique.
Oui, où on tourne autour d'un globe terrestre. Ouais. Et c'est quelque chose qui m'a inspiré quand j'ai fait le pavillon du Luxembourg à Séville. Donc j'adorais cette idée de tourner autour de la Terre, et c'était voilà, on est au cœur même de nouveau de l'exploration. Donc, comme ça, il y avait plein de choses troublantes.
Revenons au discours entre le texte et l'image, et surtout dans Les Mers perdues, ça discours de façon oblique. Alors c'est marrant, ce dialogue entre le texte et l'image redouble les dialogues qui sont au cœur de vos textes. Et ceci précisément par rapport au titre, Les Mers perdues. Les Mers perdues, bien sûr, le muet, l'illusion du œuf fait entendre la mer, les origines. Et quand on ouvre les Mers perdues, ce qui apparaît en premier, c'est l'image. Comme si l'image préexistait au signe, à la langue. Et dans une interview que m'accordiez, Jacques, vous me disiez que vous n'étiez pas loin de penser que, voilà, que l'image était première. Alors, j'aimerais savoir à votre avis là-dessus.
Non, mais je veux bien répondre. Ça m'oblige à avouer publiquement que je suis un homme complètement délirant. Alors, je vais l'avouer, je ne crois pas à la linguistique saussurienne, je ne crois pas à l'arbitraire des signes, et je ne crois pas à... comment dire... à l'arbitraire des signes. C'est-à-dire, je pense que si les hommes ont réussi à parler... c'est parce qu'ils ont modulé des cris sur des dessins. C'est-à-dire, je pense qu'on arrive à dire « bison » parce qu'on est capable de le dessiner. Hein. C'est-à-dire qu'on pense qu'on passe du meuglement du bison... Si je sais pas parler, pour expliquer à mes copains qu'il y a des bisons et qu'on va aller à la chasse, je vais... Alors bon, et puis, mais par contre, si je dessine, c'est-à-dire si je m'aperçois au fond d'une grotte, dans la ténèbre profonde de la terre, je me balade hein, avec une petite lampe à huile, et je vois qu'il y a là déjà un flanc de bison. J'ai qu'à prendre un peu de charbon de bois et suivre la ligne que je sens, prendre un peu de terre, caresser ce flanc, le bison de la grotte d'Altamira surgit, il est là. Il est là, il attendait que ça. Mais si je, dans ces gestes, dans cette vision graphique, dans mon mouvement, pour sauver le bison, pour le préserver si je vais le tuer, pour ancrer son âme dans la matrice de la terre, au lieu, je maudis le... Et je vais arriver à dire quelque chose qui, à l'époque, voulait dire bison. Je dis pas aujourd'hui, bon, au fil des millénaires, ça a évolué considérablement. Mais je ne comprends que comme ça, la langue que je parle, très sincèrement, hein, au risque de passer pour un fou. Parce que aujourd'hui, il y a une rupture totale entre l'objet et le nom qui le désigne. Moi, j'ai besoin, pour vivre, de penser qu'il y a une liaison profonde, que nommer est resté un acte magique. Je suis un animiste. Je suis un animiste. Quand je manipule mal un objet, je me fâche avec l'objet. Je dis, pourquoi tu m'embêtes aujourd'hui? Je suis fatigué, alors tu peux pas rester... je renverse le verre. Je dis, tu peux pas rester sur ton pied, tu vois bien que je suis fatigué. Qu'est-ce que tu fais, le verre? Hein, vous voyez, je vis vraiment ma sensibilité profonde et comme ça. Hein. Donc, alors, entre le réel immédiat et l'énoncé... On a besoin d'un intermédiaire, et l'image, cette imitation qui est toujours prête à surgir autour de nous, c'est là le chaînon manquant, qui manque dans la linguistique scientifique, rationnelle, sérieuse, Saussure, où il n'y a aucun rapport entre un assemblage de phonèmes parfaitement arbitraires. Le verre pourrait s'appeler la table fauteuil, le fauteuil ça n'aurait aucune importance, on changerait les pièces sur l'échiquier, le jeu resterait le même. Ça me révulse, hein. C'est l'autre thèse, absolument, c'est la thèse de la magie. J'ai besoin d'images. Donc effectivement, quand je tombe sur des planches dessinées, ça, d'une certaine manière, dans mon univers, ça va de soi, mais c'est d'une évidence de rêve. Mais bien sûr, c'est exactement comme le bison au fond de la grotte qui est déjà dans la pierre. Mais bien sûr qu'il y a quelqu'un d'autre qui a senti que les statues pouvaient avoir cet aspect. Mais bien sûr, c'est évident. Et à partir des images, à ce moment-là, moi, je peux trouver les mots. Les mots viennent. Et c'est aussi en ce sens-là que je dis que je suis surréaliste. Même si aujourd'hui, un bon surréaliste est un surréaliste mort, à l'exemple des populations amérindiennes, pour moi, c'est ça, être surréaliste également. C'est cette puissance des images. Et l'imagination consiste à les reconnaître comme intercesseurs de paroles. Matrice. La matrice de la langue qu'on parle.
Oui, je peux faire écho à ce que tu dis en précisant que, par exemple, les bandes dessinées qu'on faisait avec Benoît, on faisait l'histoire ensemble. Et quand on disait l'histoire ensemble, c'est qu'il n'y avait évidemment pas un texte avant une image. Les deux venaient ensemble. On dialogue, quand on travaille, on a encore des projets, on pense une matière qui est visuelle et qui donc charrie des mots, des situations, des personnages et des images. Parce que c'est quand même un lien organique, la bande dessinée, c'est un lien organique entre du texte et du dessin. Et c'est ce que j'aime, évidemment, chez les auteurs que j'admire le plus, comme Hergé, Winsor McCay, mais ça va, ça peut aller jusqu'à Spiegelman, ou Chris Ware, ou en passant par Jacobs ou Franquin. Ce sont des auteurs qui ne savent pas faire la différence. Pour moi, l'auteur idéal de bande dessinée, c'est évidemment, c'est quand il est unique. Donc quand on est deux, il faut se rapprocher de la forme unique. Donc on essaye de faire en sorte que, enfin moi je ne sais même pas quelle est l'idée de l'un ou de l'autre dans nos albums à Benoît et à moi. Il n'y a pas de différence, on ne s'est pas séparés, parce que ce qui nous importe c'est que ça, voilà, ça. Et donc ça fait écho à ce que tu dis, il y a des moments où... Voilà, où les situations, où les images surgissent et créent des séquences et créent l'histoire. Mais pas donc un texte préalable écrit.
Ça avance de concert,
de concert, façon
co-extensive.
Oui, ouais, voilà. Tout vient. Et pour moi, les meilleures séquences, s'il y a des séquences que je revendique, pas toutes, mais enfin, il y en a quand même, c'était justement celles où rien ne prenait le pas... ni l'un sur l'autre. Il n'y a pas une idée préalable de scénario. Mais c'est plutôt quelque chose... Et moi, je trouve que c'est extraordinaire avec les auteurs qui m'ont fait rêver étant jeune. C'est justement leur capacité à détecter des signes. La force d'Hergé, c'est quand même que chaque album, au cœur de chaque album, il y a comme une image qui a une persistance rétinienne. C'est une espèce de force d'arriver à trouver... Et c'est ce qui, voilà, il s'est arrivé à détecter ça. C'est ce qui fait que les livres, après, ils sont très construits, très, très, très élaborés, mais ils ont au cœur même une image.
Mais c'est le paradoxe de François. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un dont la notoriété est essentiellement fondée sur la bande dessinée, mais qui a peut-être ce talent en révolte contre ce que devrait être, en principe, la bande dessinée. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est en permanence en révolte contre ce qu'on pourrait appeler un art appliqué. Ouais, François veut pas être dans l'art appliqué, il veut être dans une création fondamentale. Voilà. Donc, il est constamment... chaque album, chaque aventure est une prise de risque qui va plus loin... dans le désir d'écarter la contrainte, la soumission d'un art appliqué. Et c'est peut-être ça l'affinité vraiment profonde qui est entrée en jeu avec Les Mères Perdues. Parce que, on en parlait tout à l'heure, il en riait, mais c'est vrai, j'écris dans un laisser-aller. Je me suis laissé saisir par un itinéraire que j'ai cru et j'ai laissé couler. Je me suis pas appliqué à imposer d'avoir à rendre compte. Et au contraire, je me suis mis dans un état de réceptivité passive. Et comme si nécessairement ce que ça demande, c'est de la confiance. Se dire, ça va marcher. Et très curieusement, alors c'est pas du tout irrationnel, hein, parce que très curieusement, ce qui surgit, c'est une cohérence et une logique peut-être beaucoup plus forte que si je m'étais techniquement imposé de construire pas à pas une intrigue adéquate. Je mettais en face des images, mais alors qu'est-ce qui se passe, etc. Et jusqu'à ce que, par exemple, je trouve un détail qui fasse embrayeur d'imagination. François utilise dans ses planches, il ne personnalise pas les figures humaines, hein, puisque ce sont des planches qui étaient destinées à être essentiellement des décors, des structures d'appui pour des narrations. Mais il a besoin d'une échelle. Donc, il met des silhouettes qui sont celles que mettent les architectes. En général, c'est dit dans le texte. Et, moi, je me suis accroché à ces silhouettes. Je les ai chargées de signification. Elles m'entraînent, en général, ces personnages qui marchent. Elles m'ont entraîné à découvrir la dimension de vertige. Enfin, toutes sortes de choses que j'ai projetées et qui... Et il suffisait de se laisser aller en remarquant ce qui était déjà là. J'ai trouvé, par exemple, il y a une silhouette féminine qui à la regarder, elle est là devant la révélation d'une série de façades entre lesquelles surgissent des statues monstrueuses. Et petit à petit, je me suis laissé émouvoir, comme si je connaissais une femme réelle qui était là, et ce qu'exprimait cette petite silhouette de femme. Tout, je voyais des délicatesses, une sensibilité. Le personnage a pris sa consistance à partir de quelque chose qui était là, juste suggéré. Voilà.
Alors c'est étrange parce que ça résonne curieusement avec les jardins, cette idée que. Que l'objet de l'aventure, et ça résonne aussi avec ce que vous composez, créez, l'objet de l'aventure échappe toujours au récit. Mmh. Hein, et demeure une énigme, un mystère. Et ça aussi, c'est... Ouais.
Mais j'aime bien aussi qu'ils disent que c'était une aventure. Je trouve que ce qui est très important, c'est qu'on parle souvent de l'histoire, mais moi, je trouve que ce qui m'importe beaucoup, c'est l'histoire de l'histoire. Pourquoi on fait cette histoire-là ? Qu'est-ce qui fait que cette histoire-là s'impose ? Et ça, c'est quelque chose de très étrange qu'on ne domine pas et que, à la limite, je ne veux pas dominer. Enfin, je trouve qu'il y a des histoires qui doivent s'imposer. Leur nécessité, leur évidence doit crever les yeux pour que, tout doucement, comme ça, vous soyez presque devant l'impossibilité de faire autre chose. C'est ce qui rend alors la nécessité du voyage et de l'exploration comme une mission qui s'impose. Et c'est vrai que ce qui s'est passé sur les mers perdues, c'est un peu ce que j'essaye de provoquer sur chaque récit, c'est que ça s'impose. Il faut partir, il faut y aller, c'est évident, et c'est là-dessus, et c'est maintenant. Et... Alors c'est très gai parce qu'alors il n'y a pas de doute. En tout cas, on sait qu'on peut rencontrer des problèmes, que ça va être difficile, comme toute histoire, ça pourrait être complexe, on peut éventuellement se perdre, on peut éventuellement... mais au moins, on sait que il n'y a pas de... Voilà. On ne s'est pas trompé sur le fait qu'il fallait partir, et partir dans cette direction-là. C'est un énorme plaisir que de savoir déjà ça. Quoi.
En fait, c'est une métaphore du geste créateur, du geste... du geste de dessiner et du geste d'écrire.
Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est faire écho au fait de ne pas fabriquer, de ne pas, qu'on ne sente pas que tout ça est fait pour des raisons autres que simplement l'impérieuse nécessité intérieure de l'histoire qui souvent vous dépasse, parce que souvent vous ne savez pas trop bien pourquoi vous faites cette histoire. Il n'y a rien de plus beau que quand vous êtes dans un récit et que tout doucement, ce récit est en train de vous communiquer les raisons pour lesquelles vous le faites.
Il vous rattrape.
Il vous rattrape ou quelquefois même c'est en terminant le livre que vous avez un tout petit peu conscience des raisons pour lesquelles vous êtes arrivé là, quoi. Bon, évidemment, il ne faut pas exagérer. Et évidemment, on essaie de construire une histoire quand même. Mais il y a beaucoup d'éléments... Qu'on ne fabrique pas, oui. qu'on ne domine pas. Enfin, je crois que Jacques, tu dois.
Oui, mais je suis content de rencontrer des lecteurs après coup, mais quand j'écris, je n'écris pas pour des lecteurs. J'écris pour le livre que je suis en train d'écrire. Voilà, c'est ça qui m'appelle. C'est de ça qu'il s'agit. Le lecteur viendra après. Comme aujourd'hui, là, dans l'après. Mais dans le moment de l'écriture, il m'est arrivé de me lever le matin parce que le livre en train de se faire m'appelait. Et que je mettais en face de mon manuscrit, je dis, qu'est-ce que tu veux maintenant ? Et allez, voilà. Qu'est-ce que veut le livre ? Il donne ce qu'il demande pour croître, pour se développer, pour prendre sa consistance de livre. C'est là, c'est ça, là, cette aventure-là. Comme si, à partir du moment où les premiers mots ont été balbutiés, c'était le livre en train de se faire qui dirigeait les opérations.
Oui, ça, c'est un grand bonheur, ça, quand, voilà. Quand on sent qu'on n'est plus tout à fait aux commandes.
Ça peut pas se fabriquer, ça. C'est une sorte de paradoxe. C'est la volonté de s'abandonner à ce qui est.
Mais il faut beaucoup travailler pour arriver à ce que les éléments vous permettent ça. Enfin, c'est ça un petit peu la difficulté. Cet abandon est en fait le résultat aussi d'un. Enfin, le mot travail, tu n'aimes pas le mot travail.
Ben non, mais c'est. Je suis forcé d'en parler parce que il y a des moments où je suis fatigué. Je commence d'ailleurs à être fatigué à l'âge que j'ai. Je me demande où passe l'énergie et je me dis finalement ça devait être quelque chose de l'ordre du travail parce que c'est le travail qui fatigue. Donc si je suis fatigué, c'est que j'ai travaillé. Il faut un petit peu se rendre à l'évidence. Il y a peut-être une sorte de ce malaise à l'égard du travail et peut-être une petite coquetterie. J'aurais bien aimé ne pas travailler du tout. J'ai dû travailler quand même. J'ai dû travailler. J'aurais pas cette tête-là si j'avais pas travaillé.
Oui, c'est vrai que le mot travail, il faudrait en reparler. C'est peut-être un petit peu compliqué de parler travail quand on passe du temps à dessiner. Parfois indécent aussi. Donc.
Et oui.
Ouais. Ça, je sais pas trop.
Le travail, au départ, c'est le supplice réservé aux esclaves. C'est un peu gros par rapport au plaisir que l'on a à être à une table. Et,
c'est vrai.
Le tripalium, c'est les trois pieux. On mettait les gens sur la pointe des pieds et on mettait trois pieux sur lesquels on leur coinçait le cou. Tripalium, les trois pieux. Ensuite, ça a été l'appareil pour ferrer les chevaux, pour les immobiliser. Tout ça, c'est un peu dur par rapport... moi, je me sens un petit peu léger quand j'écris une histoire. Par rapport à un percheron qu'on est en train de ferrer, j'ai pas la dimension.
Au contraire de cette dimension phallique, il y a une certaine perméabilité chez vous, une certaine porosité.
Oui.
Au rêve, à l'onirisme. Et ce qui explique votre rapport au féminin.
Oui. Vous visez quoi, là? Mais je, oui, bon, mais moi, je veux bien l'assumer, pour quelques raisons mystérieuses, peut-être une mère perdue, quelque part, peut-être pas perdue pour tout le monde, mais pour moi, il a fallu que je crée, en moi, une loge féminine qui revendique une fécondité, qui revendique le creux dont parle merveilleusement la psychanalyste Monique Schneider, c'est ça? Et oui, et j'aurai une part de féminité avec ces...
Et une part d'ours aussi.
Oui, alors les deux, c'est ça, voilà. Alors c'est ça, parce qu'il y a quand même un beau passage sur cet ours gigantesque qui s'érige en vue de la mer. D'ailleurs, c'est de là qu'on a vu sur la mer. Là, on peut beaucoup s'amuser sur la pente du freudisme, l'élément matriciel et puis l'élément érigé. Des statues.
Restons sur l'érotisme.
Oui. Oui, restons sur l'érotisme. C'est un bon séjour.
L'érotisme nous semble partagé. Les dessins sont une volupté assez notable. L'érotisme qui est omniprésent et dans vos écrits érotico-pornographiques et dans vos romans, notamment dans les années statuaires. Et un érotisme qui est matiné d'inquiétante étrangeté. D'étrange.
Oui, je pense que la vie amoureuse, c'est le passage de l'inquiétante étrangeté à la surprenante familiarité. Voilà. Bon, une familiarité toujours surprenante, toujours neuve. Oui, que dire de plus Oh, je ne veux pas abuser de l'érotisme dans Les Mères perdues.
Non.
Peut-être, non. Peut-être qu'un jour, François et moi, on ira gambader de ce côté-là, mais l'heure n'est pas encore venue. Mais à toujours dans cette idée de franchir des limites, pourquoi pas. Simplement, il y a des évocations d'une histoire d'amour qui, on ne sait pas si elle s'est tout à fait dénouée, si elle va rebondir, parce qu'il fallait. J'avais besoin. Il me semblait. Pour la bonne raison qu'il apparaît d'ailleurs dans les planches, il était nécessaire d'avoir un personnage féminin. Donc quand on fait voyager une femme au milieu de trois hommes, sans compter les indigènes qui ne sont pas négligeables, il est normal qu'il se noue des relations affectives, qui donnent aussi leur tension à la narration. Et parce que je me suis épris moi-même des silhouettes féminines tracées par François, qui ont. C'est ça qui est amusant, parce que ça pourrait être conventionnel. Au départ, c'est la silhouette par laquelle un architecte donne les proportions d'un monument. Et c'est pas possible que ce soit totalement, c'est pas possible que ce soit totalement anonyme. Il y a un frémissement du dessin. Il est là aussi, il signifie quelque chose aussi pour les silhouettes masculines, hein, d'ailleurs. Mais il y a quelque chose qui, en scruté, j'ai senti quelque chose. Le déhanché, c'est pas n'importe quel déhanché. Le mouvement de la robe, c'est pas n'importe quoi. Il y a quelque chose qui est suggéré. Il y a quelque chose qui ne demande qu'à se dire, me semble-t-il.
Avant d'avoir l'étiquette architecture, que je traîne maintenant depuis pas mal d'années, j'avais l'étiquette érotique.
Ah bon?
Pas longtemps, mais enfin, j'ai quand même eu. Parce que j'avais fait une histoire qui s'appelait Carapace, il y a très longtemps, il y a plus d'une trentaine d'années, c'est terrifiant, 33 ans, je crois, dans Métal Hurlant, qui était une histoire où un couple enlevait ces espèces de protections et brusquement, il y avait un corps très charnel qui sortait dans un monde très noir et blanc, très métallique. Bon, voilà. Et puis après, il y a plusieurs récits qui étaient autour de l'érotisme, autour de. Oui, absolument. Et même plus loin, pour vous dire jusqu'où allait la chose, à un moment donné, à la suite de ça, j'ai été approché par le cinéaste Josh Shekin, qui avait fait Emmanuel.
Oui.
Et donc, j'étais très surpris. Et il vient me voir, et avec Claude Renard, et il me dit, voilà, je vais faire une adaptation de la bande dessinée Gwendoline. Oui. Gwendoline, c'est une bande dessinée un peu sadomaso.
Très, oui.
Mais un peu une bande dessinée, un petit peu, enfin, une espèce de vision très étrange du sadomasochisme, un peu une élégance un peu kitsch, qui a eu un énorme succès aux États-Unis, qui était vendu d'ailleurs un peu sous le manteau. Bondage, oui, bondage. Et alors... Et donc, il dit, voilà, je vais faire un film. Est-ce que vous seriez d'accord de faire les costumes? Faire les costumes d'un film de Georges Jacquin. Je me suis beaucoup fait charrier par mes amis parce qu'ils prétendaient qu'on ne les verrait jamais. Et donc, ça a été un film, une grosse production française. Et donc, avec Claude Renard, on a dessiné les costumes et les décors. Et d'ailleurs, le film était considéré comme un mélange entre Emmanuel, quand même, Les Aventuriers de l'Arche perdue et Ben Hur. Un peu, c'était un espèce de curieux mélange. Le film n'a pas été très, 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 très gros succès, mais maintenant, c'est un film culte aux États-Unis. Je ne sais pas au quantième degré, mais ils viennent de sortir une version Blu-ray qui est un énorme succès. Donc, tu vois, je te passerai une copie de cette bande dessinée érotique pour grand public. C'est un nouveau genre. En tout cas, il voulait tirer une partie de l'image qu'avaient ses livres pour son film, et donc on l'a aidé. C'est pas, je m'en vante rarement parce que ce n'est pas un chef-d'œuvre dans l'histoire du cinéma. Mais si vous voulez vous en amuser, c'est tout à fait amusant.
Bien sûr. Mais alors, ça veut dire que ta récente interprétation d'un dessin de Cuvelier, c'est presque un retour aux sources.
Absolument, oui, c'est vrai. C'est vrai, oui, tout à fait. Non. Effectivement, il y a d'ailleurs souvent des séquences un peu sensuelles dans les livres, mm-hmm. mais qui sont, semble-t-il, cachées derrière l'architecture, puisqu'on ne parle que de cela.
Lumière perdue, mais en abîme. Et un écrivain et un narrateur. Et au terme du livre, le narrateur, enfin, l'écrivain abandonne l'écriture. Mm-hmm. Et le dessinateur lui reproche.
Oui.
Finalement, l'un ne peut plus se passer de l'autre. Mm-hmm. Est-ce que ça veut dire que Jacques Abeille et François Skuiten vont continuer à travailler de concert ensemble?
On pourrait.
On pourrait, bien sûr, parce que
c'est intéressant de voir comment une collaboration comme ça, un petit peu très particulière, puisque ici c'était vraiment un pari extrêmement audacieux, dans des délais très, très contraints, comme l'a dit Jacques, ça sera amusant d'envisager comment on pourrait travailler autrement dans des contextes qui seraient encore différents.
Et en changeant les supports, parce que vous êtes un...
Oui, bien sûr. Oui, évidemment, c'est ça qui sera intéressant. C'est que c'est une façon d'explorer toujours un peu ce rapport du texte et de l'image. Moi, je trouve que la bande dessinée, bon, heureusement, il y a énormément d'auteurs qui s'intéressent à continuer à penser que les choses ne sont pas fermées. Et qui a encore, et ça se voit d'ailleurs, il y a beaucoup d'auteurs qui s'amusent encore à explorer. Et je trouve qu'on se doit de prolonger ça, parce que c'est vrai que le problème de la bande dessinée, c'est que vous devez énormément faire de dessins. Chaque planche, c'est énormément d'images. Et il y a une sclérose, quelque part, qui se fait. J'ai senti ça chez mes illustres pères. Je les voyais souffrir aussi. De mécanique qui se sclérosait, leur dessin allait trop vite. Et donc c'est très compliqué. En fait, toute la bande dessinée demande des facilités, parce que sinon c'est tellement difficile. Et en même temps, les facilités vous tuent. Voilà. Les facilités assèchent votre dessin.
Donc passer d'une forme à l'autre, c'est une manière d'aller vers un peu plus de complexité
De retrouver une part de fragilité et d'imperfection et d'essayer de briser, parce que je crois que je n'y arrive jamais tout à fait, à un certain nombre d'automatismes. En fait, les dessinateurs, mine de rien, reproduisent des clichés. Leurs propres clichés, parce que la machine se construit, se devient de plus en plus habile ou mal habile, d'ailleurs, je ne sais pas. Et donc, voilà. Et donc, il faut toujours briser pour retrouver même une forme de retrouver de l'émotion. Et ça, c'est très, pour ça que je change souvent de support, de technique, de papier et de métier. Parce que faire la scénographie ou être dans un film de Georges Jacquin, c'est assez dépaysant. Mais il y a longtemps, là, heureusement.
Oui, c'est ce que j'ai l'habitude d'exprimer en disant Van Gogh s'est suicidé pour ne pas devenir Van Dongen. Oui, en gros. C'est ça, c'est-à-dire quelqu'un qui est emprisonné dans son académisme et qui... Et ça y est, il y a un moment, le plâtre prend et c'est un peu plus... C'est fini. C'est, voilà.
Il faut casser. C'est vrai, le plâtre qui prend, c'est une assez belle image.
Ouais. Il faut casser. Il faut pas arrêter de se débattre.
Multiplication des formes, multiplication des genres. Ce qui pourrait peut-être expliquer que certains libraires, certains lecteurs achoppent ou ont achoppé sur les genres statuaires, c'est que ça échappe à la prise de sens définitive, à la catégorisation.
Le malheureux destin des jardins statuaires semble toucher à son terme. Bon. J'ai émis des hypothèses. Je crois qu'il y a une évolution de la sensibilité. Alors, je suis frappé de la frange d'âge que des libraires, des libraires qui se montrent aujourd'hui sensibles, parce que c'est quand même la preuve. Notre présence ici, c'est quand même sur les libraires que repose la vie des livres. Hein. Pour ma part, j'ai le sentiment que la presse, en ce qui concerne les jardins statuaires, a suivi les libraires. Bon. Or, quel âge ils ont 30-35 ans, ces libraires, qui brusquement ne sont pas... brusquement, la librairie n'est pas indifférente aux jardins statuaires. Eh bien, je pense qu'il se produit un double déverrouillage, c'est-à-dire que une couverture de Françoise Quetten ouvre une communication sur un imaginaire qui a été dans la formation juvénile de ces libraires. Et il faut dire les choses comme elles sont. Ils ont regardé La Guerre des Étoiles quand ils étaient gamins. Ils ont lu Le Seigneur des Anneaux quand ils étaient un peu plus grands. Si ça se trouve, ils ont même lu Harry Potter et tout le système de l'héroïque fantasy. Et bon, c'est pas méprisable. C'est le terreau sur lequel s'est formée leur sensibilité. Et si ils ont une introduction comme un dessin de Françoise Quetten, à ce moment-là, ils entrent dans l'univers que je propose. Hein. Malgré mon penchant pour les subjonctifs passés, qui ne sont pas d'un usage très courant en français. Et ben, il me passe cela au bénéfice de cette dimension d'imaginaire qui, en principe, était interdite en France. Hein. Il y a 30 ans de ça, ou 40 ans, Gaëtan Picon le notait. Il dit, pourquoi est-ce que les Sud-Américains, les Tchèques ou les Anglais ont le droit de raconter des histoires de fantaisie totale, mais les auteurs français, pas le droit. Bon, Gaëtan Picon, Caillois, développait la collection Croix du Sud chez Gallimard, où les Sud-Américains pouvaient se permettre de gambader dans l'invraisemblance et d'y patauger avec joie et exubérance. Les Français, ce n'était pas question. Bon. Et puis tout d'un coup, à force, il y a des gens dont la sensibilité a été formée autrement. Alors je ne dis pas qu'elles doivent qu'il n'y ait que ça dans la vie, je n'ai pas l'ambition d'envahir tout le monde, mais ça peut permettre à un livre d'avoir une vie honorable. C'est quelque chose qui s'est métamorphosé dans la sensibilité. La loi d'airain de la vraisemblance qui pèse sur la littérature française hein, depuis le XVIIe siècle. Qu'est-ce que c'est ?
Ça aplâtre à prise rapide aussi, ça.
Ça, unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Si vous faites de l'autofiction, l'unité de temps, de lieu et d'action, elle est très, très vraisemblable. Quoi. Vous n'avez pas beaucoup, 20 cm autour de votre nombril à parcourir. Voilà. Et vous êtes sûr de rester bien, bien circonscrit, bien de ciseler votre langue française. Là, tout d'un coup, le cercle s'élargit. J'en suis content, ça me fait plaisir. Parce que c'est un peu pénible d'être un écrivain qui trop confidentiel. Il faut une nuance de confidence, mais enfin pas trop, pas que ce soit écrasant et déprimant.
Tu aurais peut-être dû t'expatrier ?
J'aurais dû peut-être, comme tant d'autres avant moi, aller vivre en Belgique. Ça, peut-être. Parce que combien y en a-t-il qui sont allés se réfugier en Belgique, hein, trouver du secours, ou trouver des illustrateurs.
Baudelaire, Victor Hugo.
Et Félicien Robbes, Victor Hugo sur la route de l'exil, après tout, j'avais de bons précurseurs.
On vous remercie.